France Inter. Le 7-9.
Il est 7h47. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est députée de la France Insoumise.
Bonjour François Ruffin et merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir choisi France Inter pour votre rentrée politique.
Bonjour, merci de m'accueillir surtout.
C'est vrai qu'on pouvait se demander où vous étiez dans cette rentrée tumultueuse. On ne vous a pas entendu, vous n'étiez pas aux universités d'été. Vous avez choisi le silence ?
Non, moi, je suis parti pendant l'été avec deux chiffres en tête. Le premier chiffre, c'est qu'il y a eu 30% d'oiseaux qui ont disparu de France, des campagnes françaises, en 15 ans. 30% en 15 ans, je le répète, parce que ce sont des chiffres qu'il faut marteler et mettre dans les têtes. Et 70% des insectes volants qui, en 30 ans, ont disparu d'Europe. 70% des insectes volants. Donc je suis parti avec la conscience de cet effondrement écologique en cours, avec une conscience pour mes gamins. Ma question, moi, que je me pose tout le temps, c'est est-ce que mes gosses verront des hirondelles ? Moi, j'ai grandi en voyant des hirondelles qui volaient au ras du sol quand il y avait de l'orage. Maintenant, les hirondelles ne font plus le printemps, mais elles n'indiquent pas plus non plus l'orage. Et donc, je suis parti avec ça en tête. J'ai essayé de bosser là-dessus, de lire et d'écrire sur cette question-là. Et
Vous êtes rentré avec une démission.
Voilà, mais des fois, vous savez, vous vous dites, bon, comment vous allez porter ces thèmes-là dans le grand cirque politique et médiatique, quoi, dans les phrases du jour, les machins du jour, les démissions. Bon, là, et en l'occurrence, Nicolas Hulot offre cette chance, c'est qu'il ouvre une porte pour peut-être revenir à l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que je la saisis aujourd'hui, mais sinon...
Ouais. Sinon quoi, ça vous ennuie de venir parler en fait.
Bah sinon ça dépend sur quoi il faut parler, machin, le dernier truc.
Bon voilà. Non, ce matin vous avez accepté notamment pour parler d'écologie. On va en parler. François de Rugy a donc été nommé ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement de Nicolas Hulot. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Terre ?
Franchement, vous croyez qu'il faut perdre de la salive et du temps à parler de ça ? Tout le monde sait ici que c'est.
C'est un peu méprisant de dire
oui,
ça.
Oui, bah oui, mais je veux dire, c'est une pitrerie quoi. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait rien qui concernait l'écologie. Il a rattrapé Nicolas Hulot après la présidentielle. Et Nicolas Hulot a porté avec les ambiguïtés qui sont les siennes, c'est-à-dire qu'il y a un pan de lui qui appartient à l'oligarchie, mais il a porté avec une certaine sincérité, une certaine conviction, on l'entend dans ses mots à l'Assemblée nationale, une voix inquiète sur l'avenir de la planète. Et c'est quelque chose qu'on entendait, y compris dans le tremblement de sa voix. Je veux dire, tout le monde sait que François de Rugy n'est pas habité par une ambition ni pour la France, ni pour l'écologie, ni pour la planète.
Pardon, je ne suis pas le porte-parole de François de Rugy, mais tout de même, c'est son engagement premier, l'écologie.
Non, mais c'est pas... Ok, bon, bah, on a François de Rugy à la place de Nicolas
Hulot. Vous avez lu son programme quand il était candidat à la primaire.
J'ai lu le programme, j'ai lu qu'il a soutenu Hamon, qu'il devait pas...
Bon, voilà, je veux dire, le disqualifiez d'avance.
Mais je veux dire, tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut prendre au sérieux la question de l'écologie, c'est pas un changement de ministre qui va faire la différence.
Alors c'est comment ?
Ça demande une révolution. Je crois que Nicolas Hulot s'est heurté à Macron, s'est heurté au gouvernement. Pourquoi ? Parce que Macron est l'incarnation de l'oligarchie. C'est l'oligarchie à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a des euros dans le cerveau. Et ça domine. Les affaires dominent sur l'avenir de la planète. Mais il faut bien voir qu'au-delà de ça, ça c'est un obstacle auquel il se heurte. Mais je pense qu'il se heurte aussi à la société. Je pense que...
C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot.
Oui,
Nicolas Hulot a dit
que
la société n'était pas prête.
Je pense que c'est pas faux. Vous savez, il y a un psychiatre que j'aime bien qui s'appelle François Tosquelles, et il a cette phrase, il dit « Les hommes, les femmes et les enfants cherchent à tout prix une certaine sécurité, même au prix de la méconnaissance, même au prix du déni de ce qu'ils savent très bien. On n'est plus tranquille quand on ne sait pas. » Je pense que quelque part, François Tosquelles, là, il parle de la mort. Il parle de la mort qu'on préfère oublier. Mais quelque part, la crise écologique en cours... C'est la mort collective qui s'annonce à nous. Et on préfère l'éviter. Et donc, si jamais on met ça au cœur de nos préoccupations sérieusement, c'est une révolution qui est nécessaire.
Mais vous ne croyez pas que l'écologie peut se marier avec l'économie de marché? Vous ne pensez pas que le capitalisme vert peut marcher? Vous ne pensez pas que les entreprises peuvent changer de logiciel, qu'elles peuvent devenir vertueuses?
Écoutez,
que ça peut même leur rapporter plus à la limite,
non,
si on est
non,
cynique?
Non. Je crois que il faut que l'exigence de profit et de bénéfice passe derrière... le bien-être des humains, le bien-être de la nature, enfin la préservation de la nature, et ça passe pas par d'abord les profits et d'abord les dividendes. Donc voilà, il y a une priorité qui est donnée. Ça veut pas dire sortir forcément de l'économie marché, mais ça veut dire sortir du capitalisme à tout va, le réguler, lui opposer des barrières.
Quelle est votre différence entre l'économie de marché et le capitalisme?
C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une société de marché où il y a une partie de l'économie où on accepte qu'il y ait du marché? Moi, je fais un journal, il est en concurrence avec d'autres journaux et c'est très bien. Maintenant, est-ce que c'est ce marché marché qui doit dominer sur tous les pans de la société, c'est-à-dire sur l'éducation, sur la santé, sur la nature et ainsi de suite. Bon, moi je pense par exemple une révolution, un signe qui a donné, c'est que tous les projets gouvernementaux devraient passer par le ministère de l'écologie. Tous les projets gouvernementaux. Aujourd'hui, on a tous les projets gouvernementaux qui passent par où ? Qui passent par Bercy. C'est dire la prééminence de l'argent sur sur la nature. Et comment on peut imaginer que le projet de loi agriculture ne passe pas entre les mains du ministère de l'écologie ? Comment on a pu imaginer que
les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, c'était les deux ministères.
C'était le ministère, c'est le ministère de l'agriculture, et sur les bancs de l'Assemblée, vous avez le ministre de l'agriculture. Quand vous avez le projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire, je le rappelle, dans ce nouveau pacte ferroviaire, pas une seule fois il y a le mot biodiversité, pas une seule fois il y a le mot réchauffement climatique. Il y a rien de tout ça à l'intérieur, et ça n'est pas passé entre les de Nicolas Hulot du ministère de l'Environnement. Donc il faut faire passer tous les projets de loi par le ministère de l'Environnement, c'est une chose. Et ensuite, voyez cet après-midi, qu'est-ce qui va passer en commission des affaires économiques ? Qu'est-ce qui va passer ? Un projet pacte, le projet pacte,
pour la
transformation des entreprises.
Porté par Bruno Le Maire.
C'est-à-dire, quel est l'objectif encore qui est maintenu ? C'est de dire, il nous faut plus de croissance. Il nous faut plus de croissance, on va gagner un point de croissance, c'est le président de la commission qui le dit, c'est Bruno Le Maire qui le dit, et ce point de PIB supplémentaire, eh ben ça va être super. Eh ben il faut renoncer à cette croissance. Moi je suis pas décroissant, je suis accroissant comme on est agnostique. Mais cette croissance, d'abord elle n'est plus positive sur le plan social, c'est plus ça qui m'amène du bien-être. Là je peux vous sortir un certain nombre de données, mais il faudrait par exemple étudier Richard Wilkinson. Je sais pas si vous avez lu son bouquin pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, mais là on a la démonstration qui est faite que dans les pays riches, ce n'est plus l'augmentation du PIB, ce n'est plus la croissance qui apporte un supplément de bien-être, c'est le niveau d'égalité.
Mais François Ruffin, là pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, ainsi en a voulu le peuple, ainsi en ont voulu les élections, démocratiquement. Et la méthode d'Emmanuel Macron, c'est les petits pas. Emmanuel Macron dit quand même en un an, on a fermé Notre-Dame-des-Landes, on a voté la fin des énergies fossiles, on a bataillé pour inscrire le glyphosate au moins à l'agenda de l'Union européenne. Est-ce que vous dites que tout ça est nul, qu'ils ne font rien ? Enfin, je veux dire.
D'abord, moi, les petits pas, je suis dedans aussi. Je veux dire, je suis un réformiste révolutionnaire. Ça veut dire que je regarde les petits pas, mais il faut voir la direction dans laquelle nous entraîne. Là, la direction qui est celle prise par Emmanuel Macron et son gouvernement n'est pas de mettre l'écologie au cœur du projet. Donc il faut penser un au-delà d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on impose le fait que si on veut qu'il y ait une prise au sérieux des dégâts je le répète ces chiffres quand même, et on voit bien que les mesures qui sont proposées là, à la fois en termes de calendrier et en termes de force, ne sont pas à la hauteur de la disparition de 30% des oiseaux en 15 ans, 70% des insectes volants en 30 ans. Je veux dire, j'ai lu un conte pendant l'été d'un auteur israélien qui s'appelle Amos Oz, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, soudain dans la forêt profonde. Et comment ça commence, ce soudain dans la forêt profonde ? Ça commence avec une vallée où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vaches, enfin il n'y a plus d'animaux. Et donc on enseigne aux enfants par des cris à l'école, par des dessins qu'on leur fait faire, que bon, il fut un temps où existaient des animaux. J'ai pas envie de ça. Et à un moment, les parents sont interrogés, un enfant demande, mais il y a bien eu les animaux, papa ? Et là, le père, il dit, mais attendez, faut pas m'accuser comme ça. Et en fait, il ressent une espèce de honte et de culpabilité. Eh bien, c'est cette honte et cette culpabilité qu'on devrait avoir quotidiennement, compte tenu de ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui à la planète.
François Ruffin, après 10 jours de flottement, le président et le premier ministre ont tranché, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier prochain, comme prévu. Est-ce que vous saluez la clarification, le respect de la parole donnée ?
Bon, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse dans l'impôt, c'est à qui on le prend et à qui on donne. Et aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, on prend toujours aux pauvres pour donner aux riches. On va avoir l'exit tax dans le projet de loi de finances en rentrée. Donc moi, je pense que ça, c'est une mesure technique. Je ne suis pas un spécialiste de cette mesure technique. J'y étais a priori pas très favorable. Mais je pense que la clé, c'est aujourd'hui à qui on prend et à qui on donne. Je vous le redis, je pense que aujourd'hui, je pense que c'est démontré par des statistiques. Aujourd'hui, ce qui améliore le bien-être dans les pays qui sont déjà riches, ce n'est plus le niveau de croissance, c'est le niveau d'égalité. Et l'impôt doit être un instrument pour aller vers un meilleur niveau d'égalité.
Les européennes arrivent dans 9 mois. Est-ce que vous voulez en faire de ces élections européennes, comme dit Jean-Luc Mélenchon, un référendum anti-Macron ?
En tout cas, un référendum sur l'Europe des Macron. Oui, je pense que ça me dérange pas. La question, c'est par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi à instaurer des choses. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je me bataille aujourd'hui sur un petit peu sur les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Et j'ai reçu une note du questeur pour essayer d'améliorer la situation. Et dans sa note, il me dit, bah voilà, tel truc, ça risque d'être une atteinte à la droit à la concurrence si on demande à ce qu'il y ait un 13e mois qui soit versé aux femmes de ménage. Tel truc, c'est, si on demande à ce qu'elles travaillent pas en horaire de Calais. On risque encore de se retrouver devant la Cour européenne de justice. Donc je pense que sur plein de dossiers, quand on est à l'Assemblée nationale, on voit le blocage ou l'imposition qui est celle de Bruxelles.
Et donc, on en sort ?
Moi, je suis pas pour le Frexit. Mais après, voilà, on va traiter ça en une minute.
Non, on va pas traiter ça en une minute. Et vous avez raison, ce serait pas bien. Mais juste précisément pour savoir d'où parlent les gens, d'où parle notamment Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Griveaux dit avoir peur que Jean-Luc Mélenchon, qui se dit internationaliste, soit au fond un nationaliste de première catégorie. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un nationaliste ?
Non, moi je crois pas du tout. Moi je pense que il y a un vrai internationalisme. Je veux dire, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas pour le Frexit. Pourquoi ? Parce que le Frexit, de la même manière que qui s'est passé avec le Brexit, c'est quoi ? C'est vivre un destin solitaire. Et moi, si jamais la France est amenée à sortir de l'Union européenne, il faut que ça ait un effet d'entraînement. Il faut que ça ait un effet d'entraînement sur les peuples du Sud, par exemple l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, qui se sentent mal dans cette Europe-là, et que ça aille vers la construction d'une autre Union. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'avoir un destin solitaire, mais au contraire de construire des solidarités pour entraîner avec soi, entraîner derrière soi.
Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous ce matin, et belle journée à vous.
Merci à vous Léa.